Bienvenue au podcast Sortie de secours présenté par Suicide Action Montréal. Mon nom est Joannie Duquette et ici, ce sera un endroit où on va vous présenter des discussions sans tabou, sans jugement sur le sujet du suicide et surtout où on va poser les vraies questions. Le suicide, il faut en parler puis on est là pour ça. Si vous êtes inquiet pour un proche, vous avez perdu quelqu'un ou si vous-même vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, composez le 1-866-APPEL et surtout, ne restez pas seul dans la détresse. Aujourd'hui, dans l'épisode, nous allons parler d'épuisement professionnel. Bonne écoute! Aujourd'hui, à l'épisode, on va parler de l'épuisement professionnel ou ce qu'on appelle le burn-out et le suicide dans le milieu de la santé. Et notre invitée pour en parler est professeure Christine Genet, elle est chercheuse et professeure agréée à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal. Professeure Genet s'intéresse beaucoup à la pratique infirmière en contexte de santé mentale, en prévention du suicide aussi. Et elle est chercheure régulière au Centre d'études sur le trauma du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Et elle est aussi activement impliquée dans le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, les enjeux éthiques et pratiques de fin de vie. Bienvenue, Christine.
Bonjour.
J'ai bien résumé le tout.
C'est un bon résumé.
Ça part très bien. Je sais que c'est des termes qu'on entend souvent, Christine, le burn-out au travail, épuisement professionnel. Est-ce qu'il y a des symptômes qu'on peut remarquer pour un burn-out ou pour un épuisement professionnel?
Oui, mais souvent, ce qu'on va remarquer comme symptômes chez les gens, ça va être souvent au niveau de la fatigue. On va voir aussi de l'irritabilité. Les symptômes qu'on va retrouver dans le burn-out, dans l'épuisement professionnel, sont souvent des symptômes qui sont similaires à ce qu'on va rencontrer au niveau de la dépression.
Okay.
Les gens vont ressentir soit une fatigue, perte d'énergie, perte d'intérêt aussi beaucoup pour ce qui habituellement les intéressait beaucoup. On va sentir aussi, justement, ils peuvent avoir une perte d'appétit, des difficultés de sommeil. Des fois, on va voir aussi dans les milieux de travail, là, si on pense en contexte de travail, ce qu'on pourrait remarquer aussi, c'est de l'absentéisme ou ce qu'on appelle des fois aussi du présentéisme. Donc, tu es au travail, mais dans le fond, tu n'es pas vraiment là dans ta tête. Fait que tu fais acte de présence, tu es là sur ton chiffre, mais tu n'es pas vraiment là dans ta tête. Fait que ça, c'est des signes aussi qu'on pourrait voir au niveau du burn-out, au niveau de l'épuisement professionnel.
Et je trouve ça vraiment intéressant parce que pour vrai, à cœur ouvert, pour être passé par là, même si on a la plus belle job au monde, il y a un moment donné, on dirait où tu ne comprends pas. Tu dis, ben, je suis incapable de me déplacer et ou de sortir du lit et ou de faire quoi que ce soit. Puis on dirait que le terme qui me vient en tête, c'est comme tu zones out un peu de ton corps. Tu vas travailler, t'es là, là. Tu fais les choses, mais à un moment donné, moi, je fais comme, mais je me souviens plus ce que je viens de faire.
Non, puis souvent, ce qui va arriver, puis je trouve ça intéressant quand tu dis des fois, t'as la plus belle job au monde, c'est que souvent, ça va être des gens aussi qui vont avoir été passionnés par le travail, qui vont s'être surinvestis dans leur travail, qui vont avoir donné beaucoup. Quand on pense là, dans le milieu de la santé, par exemple, des gens qui vont avoir eu, qui vont être en relation avec des patients, avec des clients, puis qui vont s'investir émotivement avec eux, à un moment donné, la charge devient trop lourde, puis on devient un peu fatigué. Des fois, il y en a qu'on va entendre aussi parler de la fatigue de compassion. On est fatigué d'être dans la compassion avec l'autre. Fait que ça peut t'amener aussi à te sentir un peu débordé. Puis c'est là que va arriver si tu n'écoutes pas les signaux, justement, de commencer, puis que tu ne prends pas soin de toi. Bien, ça peut arriver qu'à un moment donné, il y a un certain épuisement qui s'ensuive. Puis là, bien, c'est une fatigue. Tu te dis, bien, à un moment donné, tu zones out. Puis à un moment donné, tu n'es même plus capable de zoner out. Puis là, bien, ça fonctionne juste pas. Puis là, c'est là, généralement, les gens attendent. Puis là, ils vont consulter quand, bien là, je suis même plus capable de juste me mettre en retrait ou il va arriver des erreurs. Des erreurs, moi, si je pense aux infirmières, il pourrait arriver des erreurs d'administration de médicaments, des erreurs de concentration. Puis bien là, ils vont aller consulter à ce moment-là parce que le milieu de travail va leur dire, bien là, ça marche plus, là. T'es plus fonctionnel, t'es plus productif dans ce que tu dois me rendre. Fait que ça va amener ça à ce moment-là.
J'imagine que entre burn-out et dépression, il y a des différences quand même, mais ça reste un peu relié.
Oui, les deux concepts restent quand même assez reliés. D'ailleurs, quand on regarde là, le DSM-5, qui est comme la bible au niveau de la psychiatrie pour évaluer puis donner des diagnostics médicaux. Donc, les psychiatres, les médecins utilisent des critères puis les diagnostics qu'on retrouve dans le DSM-5. L'épuisement professionnel ne fait pas partie des diagnostics de santé mentale. Fait que c'est pour ça que des fois, il va y avoir des enjeux aussi, tu vas consulter, ça va pas bien, tu vas avoir un arrêt de travail. Mm-hmm. Bien, si le médecin te met épuisement professionnel, bien, ça se peut que tes assurances ne le reconnaissent pas.
Oh.
Parce que c'est pas un diagnostic. Fait que des fois, ce qu'on va plus voir, c'est peut-être un trouble d'adaptation. Ça va être indiqué dans, le papier médical que c'est un trouble d'adaptation. Tu as de la difficulté à t'adapter à la situation dans laquelle tu te trouves. La particularité, quand on parle d'épuisement professionnel, burn-out versus dépression, c'est la composante, qu'est-ce qui a amené ces symptômes-là? Bien, c'est sûr que dans un contexte d'épuisement professionnel, mm-hmm. c'est le travail, mm-hmm. c'est le contexte de travail, le surinvestissement que la personne a fait dans son travail, c'est ça qui va avoir causé les symptômes et non pas le décès de quelqu'un, mm-hmm. non pas... Donc ça, c'est vraiment plus relié. Fait que c'est, quand on parle d'un trouble d'adaptation, c'est l'adaptation au contexte du travail qui va avoir été difficile pour la personne et pour laquelle elle n'est plus capable d'être fonctionnelle dans ses... activités de la vie quotidienne.
Puis, je veux pas te prendre en
quoi,
mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi on le marque pas épuisement professionnel dans ces termes-là?
Bien, c'est que c'est pas un diagnostic okay. reconnu. Fait que le médecin, s'il marque ça comme épuisement professionnel, bien, des fois, ils vont le mettre, ouais. épuisement professionnel, ils vont mettre burn-out, mais ils risquent de se faire rappeler par les assurances, dire, bien,
wow.
c'est pas un diagnostic reconnu, les assurances, on couvre pas. Des fois, il y a vraiment des enjeux plus administratifs okay. à ce moment-là. Fait que des fois, ils vont mettre trouble d'adaptation, ils vont mettre dépression. Pour certains patients, pour certains clients, mmh. c'est aussi plus valorisé, plus reconnu de voir épuisement professionnel. Eux autres, ils aimeraient mmh. peut-être mieux sur leur papier voir épuisement
ben oui.
professionnel, burn-out, parce qu'aussi, c'est peut-être un peu moins stigmatisant que la dépression. Parce que dépression, bien, souvent, on a l'image, on se ferme les yeux, puis ouais. on imagine une dépression, on imagine plus quelqu'un couché en boule. Alors que si on pense à épuisement professionnel, bien, la personne a beau être couchée en boule, mais c'est parce qu'elle s'est trop donnée au
t'as
travail.
T'as tout donné,
fait que, là. Des fois aussi, il y a comme cet enjeu-là mmh. aussi de stigmatisation qu'il faut travailler, tout ça, mais reste que les symptômes se ressemblent beaucoup. C'est juste la cause ou le facteur prédominant qui va avoir entraîné les symptômes va être beaucoup lié au travail quand on va parler d'épuisement, quand on va parler de burn-out.
Est-ce que burn-out va toujours rimer avec un lieu de travail malsain, un lieu de travail pas le fun?
Pas nécessairement, mmh. parce que tu peux avoir le meilleur, puis tu le disais tout oui. à l'heure, tu peux avoir le meilleur contexte de travail, puis finalement quand même développer des symptômes d'épuisement professionnel, de burn-out. L'enjeu majeur, c'est l'investissement personnel que tu vas te donner. C'est sûr que si tu sens pas que tu es reconnu pour ton mmh. investissement personnel que tu fais, bien ça se peut qu'à un moment donné, tu veuilles comme en donner plus, puis là tu n'as pas plus de rétroaction positive de ton milieu de travail, fait qu'à un moment donné vient l'épuisement, tu as comme trop donné, puis tu n'as pas reçu, tu n'as pas eu un sentiment non plus. Des fois, il y a aussi un sentiment de contrôle sur ce qui arrive. Aussi, quand tu n'as pas un sentiment d'avoir le contrôle sur la situation, tout ça, tu vas t'épuiser aussi. Fait que c'est pas nécessairement que le milieu est malsain. Ça peut arriver. C'est sûr mm-hmm. que si tu n'as pas le support de tes collègues, tu n'as pas le support de ton gestionnaire ou de l'organisation, je reviens toujours comme au titre qui est dans le milieu de la santé.
Oui.
Dans le contexte actuel, quand on regarde le milieu de la santé, comment il fonctionne, là, on se remet dans le contexte COVID-19, quatrième vague.
Oui, pandémie.
C'est sûr, quand on pense à ça, il y a une époque où puis là, je parle pour les infirmières parce que c'est le milieu que je connais plus, mais il y a un bout de temps que c'était les anges gardiens. Mais là, actuellement, ça fait un an et demi qu'ils ont plus ou moins de vacances,
mm-hmm.
qu'ils sont débordés, qu'ils ont des TSO à répétition. Ça se peut qu'à un moment donné, l'épuisement découle de tout ça, même s'ils adorent leur travail,
c'est ça,
vient cet épuisement-là parce que, écoute, j'ai beau tout donner, là, mais finalement, j'ai pas de récompense après. Donc, là, l'épuisement s'ensuit à ce moment-là. Puis tu dis, là, ça donne plus rien. Là. Mais moi, j'ai aussi beaucoup l'impression qu'il y a eu un bout de temps, dans le contexte du COVID et tout ça, il y a eu un bout de temps où il y a eu une très forte cohésion sociale.
Mm-hmm.
Hein, tu sais, on était toutes derrière les infirmières.
Oui.
Puis tu sais, il y avait les aides d'honneur à côté des hôpitaux, puis on applaudissait. Mais là, tout le monde est tanné, là. Ça fait un an et demi. Puis là, quand t'écoutes dans les médias, des fois, là, les gens disent, qu'ils arrêtent de chialer, puis ils ont quand même des belles conditions de travail, puis ils travaillent quand même, ils ont des bons salaires. Fait que là, ils amènent comme ce côté-là. Fait que l'infirmière qui travaille un bout de temps était comme portée
oui.
socialement pour dire, continue, on a besoin de toi, on est derrière toi.
Elle avait là, une vibe de soutien.
Puis là,
de...
la vibe, elle l'a moins. Fait que ça se peut que cette fatigue-là aussi. Puis c'est le même principe quand on pense, là, dans le milieu de la santé, il n'y a pas juste les infirmières. Si on pense, entre autres, à d'autres personnes qui, là, peu importe, dépendamment du contexte COVID ou pas, il y en a qui ont des rôles moins drôles là, dans le système de la santé. Là, on pense, entre autres, tout ce qui est intervenant de la DPJ, intervenants sociaux, travailleurs sociaux, qui vont intervenir dans les familles puis qui sont toujours attendus avec une brique puis un fanal. Oui. Ils ont beau avoir un très grand investissement envers leur rôle, ça se peut qu'à un moment donné, ils sont épuisés. Oui. De toujours combattre. Puis moi, je sais, quand je travaillais avec les patients au début de ma carrière, tu sais, un patient qui revient à répétition, tu dis « Hey, j'ai tout donné, j'ai tout essayé, puis j'essaye de l'aider, puis bien, veux pas, c'est l'eau de la santé mentale aussi, des rechutes. » Puis là, les patients, ils reviennent, puis là, bien, tu te remets en question, puis là, tu te...
Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait?
Puis là, tu te réinvestis, puis... Fait que, tu sais, je comprends ces professionnels-là aussi qui travaillent avec des familles, qui voient des petits-enfants, des fois que c'est difficile, puis là, ils essayent de s'investir, puis des fois, ça fonctionne pas. Eux autres aussi, ils doivent avoir à dealer avec ça, puis sont pas très valorisés non plus dans leur rôle. C'est rare qu'on va faire des aides d'honneur pour l'intervenant de la DPJ, par exemple, comme on a pu faire pour les infirmières.
Pour les gens en santé. Justement, qu'est-ce qui pourrait influencer le bonheur au travail, plus particulièrement, disons, là, des professionnels de la santé?
Je pense qu'un des éléments importants, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de ton rôle, l'autonomie professionnelle aussi. Tu sais, si tu es traité comme une machine, ben ça vient abrutissant à un moment donné. Puis ça se peut que ça devienne comme lassant, fatigant, puis épuisant de toujours faire la même chose, puis de ne pas avoir justement d'autonomie professionnelle, de ne pas être reconnu dans ton rôle de ce que tu fais. Quand tu n'es pas reconnu à ton plein potentiel, qu'on te fait faire des tâches parce qu'il faut combler des trous, mais que tu aurais peut-être la capacité de faire des choses davantage. Ça pourrait peut-être, selon moi, là, être des facteurs qui pourraient faire en sorte que la personne pourrait développer des symptômes d'épuisement ou de burn-out aussi.
Quand on parle de burn-out, d'épuisement professionnel, est-ce que la majorité des entreprises ou des milieux de travail encadrent assez bien les employés en général?
C'est très... j'aurais tendance à dire que c'est très dépendant des milieux. Tu sais, c'est... Il y a dans beaucoup, là, si on pense, tu sais, quand on parle de système de la santé, parce que c'était ça le thème au départ, quand on parle de système de la santé, ça reste des grandes organisations. Fait que généralement, il y a quand même des services d'aide aux employés, des trucs comme ça. Reste que pour aller cogner à la porte de l'aide aux employés, faut que premièrement, tu reconnaisses que ça va pas bien.
Oui.
Puis, faut que... Tu sais, des fois, la stigmatisation est très grande que tu veux pas aller cogner. Est-ce que mon employeur va le savoir? Même s'il y a de l'aspect de confidentialité.
Mais tu y penses tout le temps.
Tu y penses pareil.
Tout le temps.
Puis il y a tout l'enjeu aussi de... Tu sais, il y a les limites aussi de l'aide professionnelle de dire, bien, eux autres, souvent, l'aide aux employés, c'est un nombre X de rencontres, hein? Puis bien, ça se peut que toi, ça t'en prenne plus.
Oui.
Ça se peut que ça t'en prenne moins, mais ça se peut que ça t'en prenne plus. Bien, ça te limite aussi, tu sais. Tu dis, bien, je vais-tu commencer pour après ça arrêter après 4 rencontres? Fait qu'il y a des gens qui y vont pas dans ce contexte-là. Fait qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur peut-être des fois agir encore plus précocement. Puis ça, je pense, c'est le travail peut-être des gestionnaires, mais je pense même entre collègues, c'est quelque chose qu'on devrait, une sensibilité pour l'autre, de dépistage auprès de nos... Tu sais, quand tu travailles tous les jours avec quelqu'un, là, tu le vois qu'une journée, elle arrive pas comme d'habitude. Ça peut te prendre 5 minutes juste de demander comment ça va, puis pas comment ça va en t'en allant à l'ascenseur.
Non, ça va bien, oui, ça va, OK.
C'est ça. C'est comment ça va, puis regarder la personne dans les yeux, puis dire, hey, il me semble qu'aujourd'hui, t'as de la moins souriante que d'habitude. Peut-être qu'elle va dire, ben non, mon cadran n'a pas sonné, mes enfants se chicanent matin, je taboute. C'est correct. Mais peut-être qu'elle va juste te dire aussi que, ouais, c'est vrai, ça va pas bien de ce temps-là. Fait que d'être à l'affût chez nos proches, chez nos collègues, de ces petits signes-là, des fois, ça peut faire toute une différence. Mettez-vous à la place de quand quelqu'un vous demande sincèrement là, comment ça va, ça fait-tu du bien des fois de juste, hey, wow, même si ça va bien, hey, elle s'est préoccupée assez de moi pour me demander comment ça va aujourd'hui.
D'avoir une écoute, ça peut faire la différence.
Oui.
Le suicide chez des collègues de travail, c'est quelque chose d'assez fréquent, on s'entend, au Québec. Est-ce que en milieu de travail, de faire la prévention directement sur les différents milieux de travail, que ce soit en santé ou ailleurs, c'est important, c'est quelque chose qu'on devrait développer plus?
Bien, dans la société en général, la prévention du suicide, c'est quelque chose qu'on devrait avoir à l'œil. Parce que, mais tu disais qu'il y en avait beaucoup. Oui, il y en a, tu sais, quand même plus de 1000 personnes qui suicident là, par année. Fait que c'est quand même un nombre important. Puis, tu sais, chaque suicide va toucher même jusqu'à 100 personnes. Fait qu'on va tous avoir connu à un moment donné quelqu'un qui a fait soit un geste. Puis, tu sais, le suicide, là, quand on parle 1000 par année, c'est ceux qui sont décédés. Mais là, tu as tous ceux qui ont des idées, qui font des tentatives. Fait que dans toutes les organisations, que ce soit en milieu de travail, dans les loisirs, il devrait avoir au moins la stigmatisation devrait être travaillée, la prévention devrait être faite, juste d'en parler, juste de dire que, ben tu sais, si ça va pas, tu peux aller voir quelqu'un. Donc oui, ça, dans les milieux de travail, ça devrait être mis de l'avant. Il y a des milieux, d'ailleurs, qui essayent de plus en plus de mettre, par exemple, des premiers soins psychologiques, d'avoir des ils appellent ça des fois des pères aidants aussi, des gens du milieu qui sont formés à accompagner d'autres de leurs collègues qui pourraient avoir présenté des signes précurseurs de dépression, de détresse, d'épuisement professionnel. Fait que ça commence à exister un peu, mais je pense qu'on devrait même, nous, entre nous, justement être vigilants de l'état de nos collègues, surtout dans le contexte actuel où on est un peu plus fatigué, d'être à l'affût, ben oui. Ça devrait être une bonne chose à faire.
Puis, parenthèse, quand on fait partie, je ne suis pas dans le milieu de la santé, mais pour les travailleurs, les travailleuses de la santé, est-ce que pour eux, ça peut devenir plus difficile d'aller chercher de l'aide parce que c'est des collègues? Est-ce que ça peut être plus stressant? Est-ce que ça peut être... Non, ça va, là, parce que je ne voudrais pas que ce soit un collègue qui...
Oui, puis il y a aussi, surtout des fois aussi, la réflexion de dire, ben tu vois des patients plus mal en point que toi, tu vois des clients, puis dire, ben là, je suis pas si pire que ça.
Puis on est pire que moi.
Oui, on est tellement un mauvais juge pour nous-mêmes, là. Tu sais, ah ouais, mais là, c'est probablement que ça va aller mieux demain, puis tu sais, j'irai pas engorger le système pour ça, puis il y a d'autres mondes. Fait qu'il y a cet effet-là. Je peux pas te dire, j'ai pas lu pour les professionnels de la santé, là, je ne sais pas exactement, mais je sais, entre autres, exemple, pour les policiers, les ambulanciers, ce n'est pas des gens qui, d'emblée, vont les consulter à l'urgence. Parce qu'eux, ils amènent des patients à l'urgence. Fait que s'ils vont consulter à l'urgence, puis que la semaine prochaine, ils amènent un patient à l'urgence, bien, les gens, est-ce qu'ils vont me regarder différemment? Est-ce qu'ils vont se souvenir que c'est moi? Tu sais, tu as tellement, quand ça ne va pas bien... t'es quand même assez centré sur ton nombril parce que tu vas pas bien. Fait que t'as l'impression que tout le monde ne fait que te regarder, que de t'observer. Tu sais, à l'urgence, là, il voit tellement de patients que probablement qu'ils se souviendront pas où t'es allé la semaine passée. Mais le patient, lui, il va tellement pas bien, puis ça a tellement pris une place importante dans sa vie d'être allé à l'urgence qu'il a l'impression que tout le monde le sait autour de lui. Fait que des fois, ça peut être un frein à aller consulter parce que justement, soit que tu penses qu'il y en a pire ou que ben, t'es en contact avec ce réseau-là. Fait que tu voudras pas y aller. Puis dans certains contextes aussi, tu sais, quand on parlait des intervenants, exemple de la DPJ, ils voient des choses, puis ils entendent des choses assez traumatisantes des fois sur des situations, ou même des infirmières, des fois, ils vont voir des choses traumatisantes. Et là, tu vas aller chercher de l'aide, mais dans certains contextes, là, faut qu'ils... C'est comme s'ils prennent un rôle d'intervenant vis-à-vis l'intervenant, parce que c'est tellement gros ce qu'ils racontent à l'intervenant que l'intervenant lui-même, il est comme « Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens! » Fait que là, c'est comme si le client est en train d'intervenir sur le psychologue, de dire « Ben non, mais là, c'est pas si pire! » Puis des choses comme ça, alors que lui, il a besoin de ventiler aussi. Ouais. Fait qu'il y a toujours ces enjeux-là. Fait que des fois, ça prend des intervenants qui sont spécialisés aussi avec différents types de professionnels pour être capables d'intervenir adéquatement.
Mais ça, Christine, je pense que c'est une parenthèse vraiment intéressante de dire, même dernièrement, c'est arrivé avec un ami, « Ah, mais non, je peux pas te raconter ça, je sais que tu vis des affaires pas possibles. » Puis la personne qui a fait, « Mais non, mais attends, là, ça n'a pas rapport. Pourquoi tu me parlerais pas de ça? Parce que moi, je vis quelque chose. Voyons donc, c'est pas comme ça que ça marche. » Fait que si les gens qui nous écoutent, ils font comme, « Ah non, mais je peux pas en parler. Il y a des gens qui vivent des choses pires que... » Non, c'est différent. Oui. Je pense que c'est important, peu importe. Ben, l'aide, aller la chercher, tu sais, c'est vraiment, vraiment important. On parlait de prévention du suicide, mais là, il y a aussi tout le côté post-vention. Ça, c'est un mot que même moi, dire, je suis pas habituée de le dire. La post-vention, donc qu'est-ce qu'on fait après?
Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, les organisations de travail, puis ça, c'est un peu un de mes chevals de bataille, là, une des réflexions que j'ai beaucoup, c'est, je me dis, les organisations de travail, on veut essayer beaucoup de prévenir. Mm-hmm. Puis c'est sûr, là, mais un risque zéro, ça n'existera pas nécessairement. Il y aura, il va toujours avoir des suicides. Même si on fait les meilleurs mécanismes de prévention, il y en a qui vont nous échapper. Mm-hmm. Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir à vivre le suicide d'un proche, d'un collègue, des choses comme ça. Fait qu'il y a une intervention à faire après. Donc, c'est ça qu'on appelle la postvention. Qu'est-ce qu'on fait quand un suicide arrive? Puis le meilleur exemple, moi, je me dis toujours, il faut le préparer, cette postvention-là. Il faut la planifier. Parce que c'est pas dans une situation de crise, quand tout le monde est ébranlé, qu'on peut mettre les choses en place. Puis regardez, dans n'importe quel milieu ou dans n'importe quel bâtisse, à part dans nos maisons, il y a souvent des affiches de « qu'est-ce qu'on fait s'il y a un feu? »
Oui.
Hein? On sait comment sortir. Je souhaite pas qu'il arrive un feu à nulle part, mais je sais quoi faire s'il y a un feu. Je l'apprends à l'école, à me rouler à terre. Oui. Mais dans les organisations de travail, il n'y a pas cette planification-là. Moi, je pense que j'ai travaillé beaucoup en santé mentale. Puis une des places où des suicides surviennent, c'est en contexte de santé mentale. Mais il n'y avait pas ces guides-là de qu'est-ce qu'on fait si le suicide arrive. Puis là, on réagit toujours en réaction. Il y a un suicide qui est arrivé. Bien là, qu'est-ce qu'on fait? À qui on donne l'information? Comment l'annonce se fait? Mm-hmm. Est-ce qu'on fait une commémoration? Est-ce qu'on fait un rituel? Est-ce qu'on fait quelque chose? Il y a plein d'enjeux à considérer à ce moment-là. Fait que la QPS, dans les dernières années, ont remis à jour, il y avait un guide de postvention qui existait pour les milieux scolaires. Fait que quand un suicide survenait à l'école, comment on intervient par rapport à ça? Et ce guide-là a été mis à jour l'année dernière pour essayer justement de... Oui, pour le milieu scolaire, mais aussi pour toute organisation de travail. Puis maintenant, ce qu'on pense, c'est quand on accompagne une équipe, une organisation parce qu'il y a un suicide qui est survenu, bien oui, il faut agir immédiatement, mais il faudrait poursuivre l'intervention à plus ou moins, intensité variable au niveau de l'intervention, mais pendant même jusqu'à un an.
Absolument.
Donc, tu sais, fait que maintenant, il y a cette réflexion-là de dépister qui est plus fragile, parce qu'il y en a peut-être que ben, ça va rappeler un suicide, ou ça va rappeler un événement où moi, je suis plus fragile parce que moi-même, ça m'arrive de penser au suicide. Mm-hmm. Puis là, je vois le suicide qui est arrivé. Puis là, si on se met à faire une grosse commémoration, ben là, je me dis, moi qui ne me sens pas inclus dans mon milieu de travail, c'est-tu la façon de faire pour avoir une inclusion? Fait que, c'est toutes des réflexions qu'il faut prévoir avant pour bien mettre les choses en place. Fait que ce plan d'action-là, il est très intéressant pour les organisations de travail qui voudraient juste dire « je ne souhaite pas que ça l'arrive, mais au moins je vais être préparée s'il y a quelque chose qui survient. »
De planifier. J'aime beaucoup l'analogie avec l'exercice de feu. C'est ça, on n'en veut pas. On ne veut pas que ça arrive, mais d'être prêt.
C'est ça.
Dans que ça arrive. Je sais qu'il y a eu l'exemple des deux jeunes intervenantes de la DPJ qui ont commis un acte suicidaire. Est-ce qu'on aurait pu justement mieux planifier cette situation-là, peut-être éviter cette situation-là?
Bien, je ne connais pas ces intervenantes-là en particulier. Je ne connais pas toute leur histoire de vie. Il faut faire très attention quand on regarde un décès par suicide en particulier, tu sais, quand on regarde, parce que c'est multifactoriel. Mm-hmm. Les personnes, il n'y a pas une raison. Des fois, il y a un événement précipitant, il y a un événement déclencheur qui fait que là, c'est cette journée-là que ça se passe. Mais généralement, il y a plusieurs. Fait qu'on ne peut pas pointer du doigt et dire « Ah, c'est à cause de... » En même temps, c'est le réflexe pour avoir fait de la recherche auprès d'endeuillés par suicide. C'est souvent le réflexe des endeuillés d'essayer de trouver une raison pour faire un sens de ce qui est arrivé. Fait qu'on essaye de trouver une cause. Quelqu'un qui décède d'un cancer, on est capable de dire c'est à cause du cancer. Quelqu'un qui décède d'un accident de la route, c'est à cause de l'accident. Un suicide, la personne a part avec ses réponses. Mm-hmm. Fait qu'on essaye de trouver. Fait que ces intervenantes-là, je ne peux pas dire une raison. C'est sûr que le contexte de travail dans lequel ils étaient a dû les fragiliser. Fort probablement. Il y a bien entendu, puis sans culpabiliser les gens qui travaillaient autour, parce que c'est facile après de dire, ben oui, mais tu voyais bien qu'elle était plus triste. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu le vois sur le moment, parce que ça fait partie d'une routine, d'un quotidien, puis même peut-être que des fois, les jours avant le décès, la personne va mieux.
Exactement.
Fait que tu sais, il faut juste faire attention à, tu sais, je suis toujours très prudente par rapport à culpabiliser les gens, mais des fois, peut-être le dépistage aurait pu être fait, de voir des changements chez ces personnes-là. Est-ce que au travail, comment ça se passait? Étais-tu plus irritable? Comment leur dossier? Tu sais, j'essaie juste de m'imaginer quelqu'un qui travaille dans la protection de la jeunesse. Il y a des dossiers à tenir. Est-ce que les dossiers étaient aussi complets? Est-ce que la personne avait tendance soit à les rendre surcomplets parce qu'elle compensait et elle mettait beaucoup, beaucoup de détails, ou il était un peu moins rempli? Fait qu'il y avait probablement, il y a peut-être des éléments de dépistage qui auraient pu être faits. Puis, bien là, une fois que le suicide est arrivé, bien c'est l'accompagnement, tu sais, de toute l'équipe qui est là pour justement éviter qu'il y ait ce phénomène-là de contagion.
Donc là, la postvention qu'on parlait tantôt,
c'est ça,
super important.
D'essayer. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à la DPJ. J'avais été approchée par le milieu de dire, bien, tu sais, on devrait-tu faire quelque chose? Tu sais, ils ont décidé de faire une vigie pour le milieu, pour essayer de commémorer ces deux femmes-là, puis de se dire, bien, c'est-tu une bonne chose? C'est-tu pas une bonne chose? C'est sûr qu'il faut faire attention pour pas mettre ces gens-là sur un piédestal, parce que ça peut avoir des effets de contagion. Si on met les gens sur un piédestal, puis que là, ben, tu sais, waouh, c'est glorifier leur geste un petit peu, il faut faire attention. En même temps, il faut reconnaître que, ben, pour eux, je pense que pour le milieu, c'était une façon aussi de dire, ben, regardez comment on va pas bien, aidez-nous. Fait que c'était une façon. Fait que moi, ce que j'avais suggéré, c'est encadrer cette vigie-là. Assurez-vous qu'il y a des gens qui sont capables d'offrir des services. S'il y a des gens qui sont là à la vigie qui ne vont pas bien ou que ça brasse des choses ou que ça te fait vivre des émotions, bien, il faudrait qu'il y ait des professionnels qui soient disponibles pour justement dépister ceux qui vont moins bien, pour être à l'écoute de ceux qui auraient des choses à dire, parce que pour ne pas laisser ça comme ça à ce moment-là.
Christine, tantôt, on en parlait de ce burn-out-là, puis peut-être les causes de ce burn-out-là. Exemple, personnellement, tu fais comme, OK, plus capable de te lever, ouais. Ça ne va pas, tu pleures, tu es au travail, tu ne sais pas si tu es au travail, tes tâches, tu as de la difficulté. Mais à ces différentes étapes-là, ensuite, les gens qui sont poussés jusqu'au suicide, mais pourquoi ils se rendent jusque-là? Pourquoi ça devient si noir à cause du burn-out?
Est-ce que la personne a déjà fait une tentative? Fait que, tu sais, il y a différents éléments qui vont faire en sorte que l'idée va venir en tête plus rapidement. Mais c'est difficile d'identifier qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va arriver à ça. Mais ce qu'il faut garder en tête par rapport à ça, c'est qu'il y a toujours une place d'ambivalence chez la personne.
OK.
Donc, il y a toujours comme une porte dans laquelle on peut essayer d'aller intervenir. Puis notre rôle, là, je me mets dans une position d'infirmière quand j'interviens, mais ça pourrait être avec un ami aussi ou des choses comme ça, c'est d'essayer d'aller jouer sur cette ambivalence-là.
OK.
Tu sais, ouais, mais il n'y a rien qui marche, tu sais, tout va mal, mais d'essayer d'aller trouver avec la personne, bien, y a-tu des moments où c'est plus le fun, y a-tu des moments où c'est plus facile, puis d'aller essayer de jouer sur cette ambivalence-là pour qu'elle revoie d'autres solutions et qu'elle reste pas focussée sur cette solution-là.
Ouais. Fait que si quelqu'un nous écoute présentement et fait comme « Oh, OK, donc là, peut-être que je suis en train de faire un burn-out, je suis peut-être en épuisement professionnel. » Tu sais, souvent, on le répète, c'est des petites étapes à la fois pour aller mieux. Mais ce serait quoi, si quelqu'un nous écoute, fait comme « OK, je suis en burn-out », la première petite étape qu'on pourrait suggérer pour aller mieux?
Je te dirais que la première étape en partant, c'est si elle a été capable de le dire. Tu sais, si la personne, moi, je félicite la personne qui est capable de dire « Écoute, je pense que je ne vais pas. »
Oui.
Puis d'être assez à l'écoute de soi. Je pense qu'il faut même intervenir avant ça. Fait que tu sais, quand des fois, là, tu sens... là, il y a des fois qu'on tombe dedans raide, mais il y a des fois qu'on le sent au travail. Tu sais, que... Il me semble que là, je commence à descendre. Puis les gens qui ont déjà fait une dépression, de l'épuisement, des fois, ils sentent. À un moment donné, tu dis « Oh là, je me sens glisser. » Bien, de s'accorder du temps à soi. Puis de prendre la peine avant... Les journées que ça va bien là, dans ta vie, là, de te faire une liste de... Moi, quand... C'est quoi qui m'aide à bien aller?
Oui.
Puis la journée que tu vas moins bien, là, sors là ta liste. Parce que souvent, tu t'en rends plus compte. Puis souvent, quand ça va moins bien, c'est que tu as arrêté de tout faire qu'est-ce qui te faisait du bien. Fait que je pense que même avant l'épuisement, fait que tous ceux qui écoutent, qui soient en épuisement ou pas, de se faire une liste de c'est quoi les choses qui me font du bien à moi. Pas à moi comme maman, à moi comme conjointe, à moi
toute seule. Oui.
De se faire une liste, de se garder ça pas très loin. Puis quand ça va pas bien, moi, je suggère toujours photo avec ton cellulaire parce que t'as toujours ton cellulaire. Fait que les journées que ça va moins bien, là, tu le ressors. Puis si à un moment donné, tu vois que, bien, là, ce que je fais qui m'aide d'habitude, ça m'aide pas, bien, là, de peut-être tendre la perche à des amis, de pas rester pris toute seule avec ça. Fait qu'avec des personnes de confiance, tendre la perche, là, ça fait une couple de cette affaire que j'essaye puis ça marche pas, ça te tente-tu? Là, on peut recommencer à prendre des cafés, aller au resto. Fait qu'on peut-tu faire une rencontre? On peut-tu se parler? J'ai besoin. Puis si ça marche pas encore, bien là, on n'hésite pas à aller cogner pour avoir de l'aide à ce moment-là. Fait que soit avec son médecin de famille. On peut toujours faire appel aussi aux ressources qui existent. Là, il y a toujours la ligne 1-866 appel qui peut être utilisée. Il y a aussi le nouveau site de l'AQPS, suicide.ca, où on peut avoir de l'information. On peut même texter maintenant. Fait que c'est tout des moyens. Là, on est rendu comme plus à l'étape des professionnels quand le reste avant n'a pas fonctionné.
Donc, commencer avec des petites choses, pas voir ça trop gros aussi, parce que c'est ça, là, c'est, à un moment donné, ça vient tellement qu'il y a être noir que tu sais plus.
C'est ça,
tu
fais comme, voyons donc. Faut le prendre avant. Puis des fois aussi, un conseil que je donnerais à ceux qui sont inquiets pour un collègue ou sont inquiets pour un enfant, un adolescent ou des choses comme ça, tu sais, je parlais des lignes d'écoute, mais des fois, ça peut falloir la peine de faire le premier appel avec cette personne-là.
De rester pas loin.
Oui, il existe aussi des centres de crise dans différentes régions, les centres de prévention du suicide des différentes régions qui offrent des services. Puis des fois, de faire ce premier appel-là, parce que, je sais pas, là, mais moi, je travaille dans le domaine, donc je sais que si j'appelle, ça va se passer de telle façon. Mais quelqu'un qui est néophyte, qui ne sait pas du tout comment ça va se passer, de prendre la peine d'appeler, c'est qui va me répondre? Y a-t-il une lumière rouge qui va m'allumer en haut de la tête?
Y a-t-il mon numéro de téléphone? C'est stressant, c'est stressant, c'est angoissant.
Fait que des fois, de faire ce premier appel-là avec la personne, puis de l'accompagner là-dedans, puis après ça, la glace est brisée, Puis c'est plus facile, si jamais ça va pas bien, de faire les appels subséquents. Des fois, ça peut être une bonne idée aussi pour soutenir la personne de qui on est proche puis pour qui on est inquiet.
Mais Christine, merci beaucoup. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis la preuve étant qu'on peut s'en sortir, je vous le dis, c'est possible.
Oui.
Merci beaucoup de ton temps.
Ben, de rien, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode et merci à notre invité pour cette belle conversation. On vous le rappelle, si ça ne va pas, n'hésitez pas, vous composez le 1-866-APPEL. À la prochaine!